on se rend compte qu'on vit beaucoup avec des chiffres, parce que presque tout ce qu'on a, ça a été calculé avec des chiffres. Il y a beaucoup de choses que des choses qu'on a besoin et qui sont autour de nous, qui sont faites avec des chiffres.
Pour contacter l'émission en direct, notre site internet impatience.rsr.ch ou par SMS au 939 en commençant votre message par science.
5 × 9, 9; 2 × 9, 18; 3 × 9, 27; 4 × 9, 36; 5 × 9, 45; 6 × 9, 52; 9 × 9, 81; 10 × 9, 90.
Bravo. Bon, j'allais dire simple comme chou les mathématiques. Cécile Guérin, parfois pour bien faire des mathématiques, il suffit d'avoir un bel esprit d'observation.
Et je pense un tout petit peu de persévérance une fois qu'on veut passer d'une intuition géniale à la démonstration. Parce que quand on passe à la démonstration, c'est légèrement plus complexe. Et là, en fait, c'est grâce à une table de logarithmes qui est utilisée dans le siècle passé, on va dire, que deux scientifiques ont découvert la même loi, la loi de Benford.
Quand les machines à calculer n'existaient pas ou étaient extrêmement chères, les ordinateurs n'étaient pas performants ou n'existaient même pas, on utilisait des tables de logarithmes. Et aussi bien Newcomb en 1881 que Benford 57 ans plus tard, ils ont constaté tous les deux, donc indépendamment, que les tables étaient plus usées dans les pages qui contiennent le chiffre 1 que dans les pages qui commencent par 9. Et ils en ont déduit que nécessairement, quand on utilise des valeurs numériques, eh bien on utilise bien plus souvent des valeurs numériques qui commencent par 1 que des valeurs numériques qui commencent par 9.
Oui. Alors, c'était quoi 1, 2, 3, 4, 5. Ah, et donc
1 est toujours aux premières loges et le 9 donc toujours à la traîne. C'est une constatation étonnante que cette loi de Benford.
Et oui, du nom du deuxième découvreur donc de cette loi, Frank Benford, qui a testé plus de 20 000 valeurs venant de situations très diverses. Par exemple des listes de longueurs de rivières, les populations des villes ou encore les résultats sportifs. À chaque fois, cet ensemble de nombres vérifie la loi de Benford. Et nous, dans notre quotidien, eh ben, on peut tester, vraiment essayer de tester la véracité de cette loi. Par exemple, en allant au supermarché, en analysant en fait les factures de nos courses et en notant le premier chiffre de chaque prix. Typiquement, un kilo de riz à 3,50 francs, eh ben, le chiffre significatif, c'est le 3. On va avoir ces explications avec Paul Jolissin, qui est professeur de mathématiques à l'université de Neuchâtel et lui-même se passionne pour cette puissance du 1.
Par exemple, c'est aussi valable quand vous allez faire vos courses dans un magasin. Il faut que vous ayez une espèce de panier de la ménagère, comme on dit. Il faut que vous ayez des articles variés. Il ne faut pas que vous ayez que des yaourts. Il ne faut pas que vous ayez que des paquets de pâtes, de spaghettis ou je ne sais pas quoi. Il faut que vous ayez des spaghettis, des yaourts, du pain, du lait, etc. Alors j'ai fait l'expérience avec ma femme. Je lui ai demandé, quand elle allait faire les courses ou que nous y allions ensemble, de conserver les tickets. Et alors, une fois que j'ai eu à peu près 200 valeurs, hein, 200 valeurs de prix, eh bien, j'ai relevé le nombre de 1, le nombre de 2, le nombre de 3, etc. Et puis j'ai constaté que ça suivait relativement bien la loi de Benford. À savoir, il y a systématiquement, mais c'est flagrant, alors vraiment plus de 1 que de 2, que de 2, de 2 que de 3, etc. Maintenant, amusez-vous à les transformer en euros. Donc vous divisez par 1,665 ou quelque chose comme ça. Eh bien, à votre grand étonnement, vous devriez constater que la loi de Benford est encore satisfaite pour les prix énoncés en euros.
Ben là, vous voyez, ça ne me surprend pas, parce que je me dis, si on divise toujours par la même chose, non, ben oui, pourquoi c'est satisfait?
Oui, même parce que vous aurez certains montants qui avaient un chiffre significatif de 1, qui va passer à un chiffre significatif de 9.
Oui, tout à fait.
Donc, mais malgré tout, ça marche.
Et c'est ça la loi de Benford, c'est que chaque chiffre apparaît avec une fréquence déterminée.
Exactement, bien déterminée. Alors, typiquement, le 1 apparaît avec une fréquence, c'est lui qui apparaît le plus souvent. Il apparaît avec une fréquence d'à peu près 30%. Le 2, 17,6%, le 3, 12,5%, etc. Ça finit avec le 9 qui apparaît avec 4,6%.
On peut s'en servir ça, on peut dire je fais le pari que dans cette page, voilà. Il y a plus de 1 que de 9 et puis on gagne son pari à tous les coups.
Oui, oui.
À tous les coups.
Alors à tous les coups, il faut voir. Il faut que les données proviennent quand même, en général, d'ensembles numériques suffisamment variés.
Variés et grands. Oui, c'est épatant, mais en fait, bon, on peut se dire oui, bah évidemment, puisque c'est le premier, alors on l'utilise plus, ou enfin, ça peut s'expliquer cette fréquence plus grande du chiffre 1.
Partiellement.
J'aime bien le soupir du mathématicien.
Non, on a des réponses partielles. Hein. Ouais. On ne connaît pas tout sur ce sujet, bien sûr, hein, pour l'instant. Elle a un côté aléatoire, cette loi, quand même. Elle est vraie de façon aléatoire. Elle est vraie à condition que les ensembles de valeurs soient suffisamment mélangés, qu'on fasse intervenir du hasard là-dedans, ou de la variété.
Il n'y a pas des explications d'usage,
ouais. Non, ben pas vraiment, en tout cas pour l'instant. Parce que si vous regardez l'ensemble des nombres entiers, vous les mettez à la suite l'un de l'autre, hein, le 1, 2, 3, etc. Chaque chiffre, en tant que chiffre significatif, apparaît une fois sur 9. Ben, dans des données naturelles, ce n'est pas le cas. C'est la loi de Benford qui prime, a priori.
Le 1, je le prends toujours au loto.
On dirait quelqu'un avec une casquette.
On va jouer au jeu des nombres, tu veux bien ? C'est chouette comme jeu.
1 fois 1, 1, 2 fois 1, 2, 3 fois 1,
2 sur la terrasse au dernier niveau. Tous les restaurants sont entre les niveaux 2 et 10. Il y a 4 assemblages sur le canapé.
6, 7 fois 1, 7, 8 fois 1,
pour vous offrir une meilleure vue pour le dîner.
À quoi ça peut nous servir cette loi de Benford ?
Il y a des applications, aux États-Unis notamment, qui ont été mises sur pied pour détecter des fraudes fiscales. Parce que les experts fiscaux sont persuadés qu'une comptabilité honnête doit suivre la loi de Benford. Et alors, des tests réels ont été faits sur 34 compagnies américaines. 17 d'entre elles avaient été reconnues coupables de fraude, en utilisant entre autres la loi de Benford, mais aussi d'autres critères. Bien sûr, il faut être honnête, hein. Une analyse des comptabilités de ces 34 sociétés a permis de détecter les 17 fraudeurs. La loi de Benford n'est pas parfaite. Elle a aussi considéré comme fraudeurs 4 compagnies qui n'étaient pas censées l'être.
Okay. Elle s'applique pas à tous les cas, mais on peut s'en servir comme un outil de détection des fraudes.
C'est un outil de détection des fraudes. Si quelqu'un essaye de simuler une suite de valeurs numériques, la loi de Benford permet de détecter l'erreur. Même pour quelqu'un qui serait averti. Des tests ont été effectués à Zurich par un certain Dickmann, un psychologue, et ils ont révélé que même pour des personnes averties, donc qui essayent de simuler des valeurs numériques, même s'ils savent, s'ils respectent la loi de Benford pour le premier chiffre, à partir du deuxième ou du troisième, c'est fini. On n'arrive plus à essayer de contourner la loi, à imiter la réalité.
Lorsqu'on parle mathématiques et fraude, c'est vrai qu'en ce moment, Cécile, résonne dans notre tête, crise financière.
Et oui, et bientôt, la loi de Benford pourrait être appliquée pour vérifier justement la pertinence des modèles mathématiques appliqués à la finance.
Si quelqu'un essaye de simuler une suite de valeurs numériques, la loi de Benford permet de détecter l'erreur.
Impatience. Nancy Ypsilantis.
Revenons donc sur ce fameux chiffre 1 qui, dans la vie de tous les jours, apparaît plus que le 2, qui lui apparaît plus que le 3, et ainsi de suite jusqu'au 9. Cette loi mathématique, intitulée « loi de Benford », sert à détecter les fraudes, notamment fiscales. Mais les mathématiciens, eux, Cécile, continuent à l'étudier.
Oui, parce que les mathématiciens, ils veulent voir dans quelle suite infinie de nombres la loi s'applique ou ne s'applique pas. Alors par exemple, dans les années 60, il y a un mathématicien russe qui s'appelle Israël Gelfand, qui a étudié la suite des puissances de 2, de la puissance 1. 1, 2, 2 à la puissance 2, 4, 2 à la puissance 3, 8, etc. Et bien dans cette suite des premières 40 valeurs, on retrouve toujours comme premier chiffre significatif plus de 1 que de 2, plus de 2 que de 3, et ainsi de suite. Et Paul Jolissin, lui, professeur à l'Institut de mathématiques de l'Université de Neuchâtel, il s'est attaqué à cette suite, il l'a tronquée.
Donc je vous ai dit, si vous prenez la suite entière, ouais. 2, 4, 8, etc., le chiffre significatif satisfait la loi de Benford. Donc vous aurez environ 30% de 1, environ 17,6% de 2, etc. Moi, j'ai fait la chose suivante. Dans cet ensemble de nombres, on va en retirer certains. Donc, on ne va garder que certaines valeurs. Dans un premier temps, ne gardons que celles dont l'exposant est un carré d'entier. Donc, on va garder 2, parce que 1 égale 1 au carré, donc on garde 2. On va garder 2 puissance 4, donc 16, mais on va virer 2 puissance 2 et 2 puissance 3. On va garder 2 puissance 9, on va garder 2 puissance 16, 2 puissance 25, 2 puissance 36, 2 puissance 49, 64, etc., etc. Eh bien, figurez-vous que l'ensemble ainsi obtenu, où on enlève en fait de plus en plus de nombres, hein, entre deux carrés consécutifs, hein, il y a un trou de plus en plus grand. Eh bien, malgré ça, le résultat, donc la suite qui a été bien tronquée, satisfait encore la loi de Benford.
Alors, attendez, moi, ce qui m'interpelle, donc vous trouvez ça, c'est étonnant, mais comment vous avez eu l'idée d'enlever les deux puissances, enfin de garder seulement certains chiffres de la liste? Vous êtes dit, un jour, vous êtes levé le matin, vous êtes dit, tiens, je vais essayer ça, voir si ça marche?
Non, un mathématicien, quand il se lève le matin, parfois il a réfléchi pendant la nuit, donc il a plus ou moins bien dormi, mais comme disait Poincaré, pour résoudre un problème, il faut y penser souvent. Et puis, je me suis dit, mais que se passe-t-il si on essaye d'enlever certaines puissances, mais de façon régulière? Là, il y a quand même quelque chose. Hein, je ne fais pas n'importe quoi. Oui, je ne garde que les carrés. Ça marche aussi avec les cubes, hein, d'ailleurs. Hein.
Juste pour trouver ça, vous avez mis combien de temps pour que je comprenne votre travail?
Alors, combien de temps? C'est difficile à dire. Justement, en essayant, en regardant un peu comment se passaient les choses, j'ai eu une illumination, enfin, en quelque sorte, on peut dire. Comme ça, je me suis dit, ah, mais tiens, ça doit marcher. Et comment le démontrer? Eh bien, j'ai trouvé un théorème qui datait de 1916 qui m'a aidé à démontrer ça. On est touché, intellectuellement parlant, par la beauté, par la curiosité des propriétés de certains ensembles mathématiques, certains objets d'études des mathématiques, oui. Oui, c'est ça, il y a une certaine esthétique là derrière, qui, en tout cas, moi, me séduit beaucoup. J'aime voir de beaux résultats. C'est des résultats qui, typiquement, ont un énoncé qui peut être relativement simple, mais surtout qui ont une démonstration, une preuve qui est élégante. Hein, au niveau logique, où il y a des subtilités, où il y a des astuces, des petits coups de génie par-ci, par-là. Ça, c'est une belle démonstration.
D'accord. Et c'est pas facile de comprendre la beauté des mathématiques. Quand vous voyez une belle démonstration, ça génère quoi?
C'est extrêmement jouissif. De comprendre, encore mieux, de pouvoir fabriquer soi-même une belle démonstration, c'est très jouissif. C'est bien plus passionnant que simplement, par exemple, lire un roman policier ou même un brillant roman policier, un Sherlock Holmes avec des déductions, etc. Quand on peut en faire soi-même, c'est extrêmement valorisant.
Paul Jolissin, est-ce que par rapport aux mathématiques, on est parti d'une matière qui semble un petit peu aride, et puis en fait, en vous écoutant parler, j'ai vraiment l'impression que, comme vous y pensez aussi, comme vous l'avez dit, un peu le jour, un peu la nuit, etc., ça fourmille dans votre tête, et puis c'est très créatif comme un artiste aussi qui accouche d'une œuvre d'art.
Exactement. À mon avis, c'est un peu le même genre de démarche intellectuelle. On fait œuvre de créateur quelque part, enfin, sans vouloir être trop prétentieux.
Mais vous vous sentez comme un artiste?
Ben, quelque part, oui. D'autant plus qu'on travaille avec des objets abstraits. Donc typiquement comme un peintre qui va faire une peinture abstraite, un mathématicien, il utilise, il manipule aussi des objets qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher explicitement. À mon avis, c'est sûrement le même genre. Quand on achève, quand on arrive au bout d'une démonstration, donc cohérente et tout, bien mise en place, je pense qu'on on est un peu dans le même état d'esprit ou le même état d'émotion qu'un peintre qui vient d'achever une peinture, une œuvre, disons.
bien d'accord avec lui. Merci à Paul Jolissin, professeur de mathématiques et d'illumination à l'Université de Neuchâtel. Et si le chiffre 1 vous titille, ne ratez pas la conférence à l'Institut des mathématiques de l'Université de Neuchâtel. Cela s'intitule « La puissance du chiffre 1 » de Christophe Leuenberger à partir de 16h15. Et sera suivie cette conférence par d'autres sur les mathématiques, dont une sur les maths financières le 5 novembre.
Le calcul intégral.
Integral calculus. Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Est-ce Leibniz ou bien Newton, ou bien est-ce que c'est moi qui déconne? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Ce que je pense d'Antoine et de Jacques Dutronc, ça commence par C, ça finit par on. 700 millions de yéyés à travers le monde entier. Ça ne fait jamais tout bien compter qu'un 1 400 000 000 de pieds.
Connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Ça, c'est un peu la chanson fétiche de l'émission Impatience. Lors de notre première, encore un 1, nous avions diffusé Évariste. Cette chanson écrite en 67. Et Évariste, c'est dans la vraie vie, entre guillemets, Cécile?
Oui, c'est un chercheur en physique théorique.
Oui, oui, un vrai physicien qui travaille sur la mélodie des protéines. Mais notamment, oui, de la tomatine, notamment. Il teste sur lui quelques protéines.
Merci. Et va rester.
Infotrafic RSR. En raison de travaux sur l'autoroute Yverdon-Neuchâtel, le trafic risque d'être perturbé entre l'échangeur d'Yverdon et la jonction d'Yverdon-Ouest en direction de Neuchâtel.
Les automobilistes qui rencontrent des perturbations de trafic sur leur route peuvent en informer la centrale Via Suisse au numéro gratuit 0800 163 163.
Infotrafic RSR en collaboration avec les CFF et le TCS.
Impatience avec Infotech, les tests comparatifs du TCS, infotechtcs.ch.
En début d'Impatience, Pascaline Minet vous parlait de vers de terre absolument étonnants auxquels on consacrera une thématique, comme on aime l'appeler entre nous. Demain, dans Impatience, autre thématique, c'est la mouche. Alors, Sarah, la mouche...
Mais la mouche, la mouche, il y en a partout. Oui, c'est vraiment le chouchou, la star des laboratoires. On la connaît sous toutes ses coutures. On verra que la mouche, et bien, les mouches, plus elles sont intelligentes, plus elles meurent vite. Ah. Eh oui, c'est dommage.
Comme l'intelligence tue.
Voilà, en quelque sorte. Nous verrons aussi que les mouches laissent de très très belles traces sur les lieux de crime. On en parlera avec Claude Wyss, qui est un des pionniers de l'entomologie forensique en Suisse. Il a notamment travaillé avec Daniel Chérix, qui sera notre invité en direct. Et j'espère que Daniel Chérix nous dira pourquoi il y a tellement de mouches. Enfin, moi j'ai beaucoup de mouches dans ma cuisine.
Et quelle est la star des mouches dans les laboratoires?
La drosophile.
Nous parlerons également des mouches et des robots, puisque l'EPFL, l'Institut de laboratoire bio-inspiré, travaille sur l'observation des mouches et on fait ensuite des robots volants. Extraordinaire et révolutionnaire.
Déjà qu'avec les vrais. Aujourd'hui dans Impatience, Pascaline Minet, Sarah Dirène, Cécile Guérin, David Golan signait la réalisation, Lynn Lanteman est notre assistante et c'est Karine Vouyamo qui choisissait tous les disques.
Et Nancy, Silentis.
L'heure avec le musée de la Croix-Rouge à Genève et son exposition Des murs entre des hommes.
18h, c'est Forum avec Mehmet Gultas. Bonsoir à tous.
Bonsoir, un véritable standing ovation. Les principales bourses ont salué avec enthousiasme les mesures annoncées hier par les dirigeants de la zone euro. Un rebond d'autant plus spectaculaire que les grands pays de l'Union européenne ont précisé aujourd'hui leurs plans nationaux de sauvetage des